l'Europe, voilà, qu'est-ce qui se passe en Europe? On a l'impression qu'on est sur tous les fronts.
Exactement.
Qu'est-ce qui se passe?
Non, franchement, c'est assez impressionnant ce qui se passe en ce moment, parce que l'Europe doit trancher plein de sujets qui sont extrêmement importants. Et donc, en ce moment, il y en a plusieurs. Il y a notamment, c'est vrai que les États-Unis ont lancé leur fameux plan pour réduire l'inflation, Inflation Reduction Act, voilà. Donc on l'appelle IRA. Et donc, c'est un plan qui est un peu protectionniste. Qui est même franchement protectionniste. Et donc, c'est vrai que nous, en Europe, du coup, il y a certaines entreprises qui disent « Pourquoi je ferais un projet renouvelable, par exemple, en Europe et pas aux États-Unis, alors qu'aux États-Unis, c'est subventionné et pas en Europe, enfin, au moins en Europe ?»
Il faut que l'Europe réagisse, donc, face à ça.
Voilà, exactement. Donc, il y a un problème. Et donc, les Européens doivent réagir, sachant que les Chinois font à peu près le même genre de même politique protectionniste. Et donc, l'Europe, elle, est davantage libérale. Hein. Et donc, il faut changer quelque chose. Donc, ça, c'est le débat qu'il y a maintenant depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même. Même Macron est même carrément allé aux États-Unis pour demander à Joe Biden de... Donc, c'était la grande visite, là, quand il allait aux États-Unis il y a quelques semaines, où il a demandé de quelque chose. Et bon, Biden l'a gentiment accueilli, mais il lui a fait comprendre que les Américains resteraient sur leur position. Et donc, aujourd'hui, il y a un débat en Europe sur est-ce qu'on met davantage d'argent encore pour subventionner les énergies renouvelables, etc., etc., etc. Donc il y a deux camps en Europe, comme d'habitude. Il y a les frugaux du Nord, donc Allemagne et Pays-Bas en tête, qui, eux, veulent jamais trop dépenser d'argent. Donc là, ils disent, il y a déjà énormément de dispositifs déjà sur la table, donc on va pas commencer à en remettre davantage. Et le Sud, donc France et Espagne en particulier, qui ont beaucoup resserré leurs liens, qui ont d'ailleurs signé récemment un traité la semaine dernière d'amitié. Donc ils se resserrent beaucoup. Et donc il y a, on va dire, les Latins, enfin, ou les catholiques contre les protestants.
Mais bon, on a du mal à se mettre d'accord au sein de l'Union européenne.
Exactement. L'enjeu pour la bourse, parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est que s'il y a des subventions encore massives pour développer l'industrie verte, les énergies renouvelables, ça veut dire que pour les valeurs cotées européennes, il y aura encore davantage de business, voire même des subventions.
Il y a des chances que ça arrive, ça, ces subventions, tu penses, là où...
Alors voilà, donc là, c'est toute la question. Ouais. Voilà. Donc là, maintenant... aujourd'hui, Scholz a dit qu'il ne voulait pas le faire, finalement. Alors qu'il a dit il y a 10 jours qu'il était d'accord. Le Premier ministre hollandais a dit qu'il ne voulait pas non plus, parce qu'il y avait déjà beaucoup d'argent sur la table. Et les Français sont à fond pour. Voilà. Donc, le rapport de force politique entre la France et l'Allemagne, c'est ce qui va déterminer si on va faire des subventions ou pas. Ce qu'on a vu, et moi, ça, c'est mon interprétation personnelle, au cours des dernières années, on a vu l'Allemagne céder aux exigences françaises à plusieurs reprises, notamment sur l'intégration du nucléaire dans la taxonomie européenne, le gaz également, sur pas mal de sujets, sur l'interventionnisme aussi de l'État dans l'économie. Là aussi, la France commence un peu à donner un peu le là. Et donc, on voit que l'influence politique allemande, qui était très forte ces 20 dernières années, commence à faiblir au profit du camp français. Et donc, mon avis... maintenant, pour finir ça, c'est que c'est pas forcément la peine de mettre des dizaines et des dizaines de milliards d'euros sur la table pour cette IRA européen. Ce qu'il faut, c'est mettre un cadre juridique plus protectionniste et qui permettrait aux entreprises françaises de ne plus, aux européennes, de ne plus hésiter à entre les États-Unis et les, voilà. Donc, mon avis, c'est qu'effectivement, il y a déjà beaucoup d'argent sur la table, beaucoup de dispositifs qui sont déjà disponibles. C'est pas la peine d'en mettre davantage. Par contre, le cadre juridique protectionniste, lui, pourrait être un peu plus prononcé. Et je pense que la prochaine étape, c'est 9 et 10 février, où là, on commencera à avoir des éléments là-dessus. Boursièrement parlant, il y a deux manières de jouer ce thème-là. Imaginons qu'on pense qu'il va y avoir un IRA européen. Il y a déjà tous les acteurs du renouvelable qui vont profiter peut-être de conditions de business et de plus favorable, parce que c'est vrai que avec la crise ukrainienne, on leur a pas mal tapé dessus en leur mettant des caps et des windfall taxes, des taxes exceptionnelles, etc. Donc le secteur est un peu à bout de souffle et aurait besoin d'un peu de boost. Donc ça, c'est ce que pourrait faire cet IRA européen. Et deuxièmement, tous les fournisseurs de ces gens-là. Hein, donc par exemple des turbines éoliennes, on a Vestas, Nordex, Siemens Gamesa ou des
donc ça c'est des valeurs qui pourraient
qui pourraient profiter, voilà. Donc vous avez les acteurs qui gèrent les fermes de panneaux solaires et éoliennes, Ørsted, Verbund, Acciona Energias, EDPR, voilà. Donc ça, ce sont les grands acteurs qui gèrent les parcs. Ouais. Et ensuite, tu as les fournisseurs qui apportent des composants pour pouvoir fabriquer ces parcs. Et là, en particulier, Vestas, mais il y a aussi SMA Solar, par exemple. Voilà, donc c'est ça l'enjeu. Si cet IRA européen passe, toutes les valeurs que je viens de citer, normalement, devront bénéficier d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est ça l'enjeu.
Ok, et donc pour ces valeurs, en gros, si on veut jouer ce thème-là en bourse, je sais pas si tu devais, alors bon, évidemment qu'il y a plein de valeurs, mais si tu devais en garder deux par exemple, ouais. Là, qui pourrait le plus bénéficier
Donc chez Tocqueville, on a un fonds qui s'appelle LBPAM ISR Action Environnement.
Ok.
Alors, donc pour ceux que ça intéresse, je vous invite à vous pencher sur le top 10 de ce fonds. Vous allez déjà réussir à avoir pas mal d'idées. Vous trouverez notamment EDP Renovavis, qui est une société portugaise qui gère des parcs éoliens et des parcs solaires. Donc là, vous verrez aussi Acciona Energias, donc là, les deux valeurs que j'ai déjà citées. Et ensuite, chez les fournisseurs, on a on aime bien Vestas et SMA Solar. Voilà.
D'accord, ok. Bon, et bah, très clair, donc ça vous donne déjà des idées de valeurs là-dessus. Et l'Europe doit faire face à plein de choses, et autre chose encore, c'est réagir à l'offensive des acteurs chinois sur le marché de l'automobile.
Ah, ça, c'est incroyable.
Il se passe encore plein de choses. Voilà. Puis nous, à Horizon, on veut enlever les moteurs thermiques à Horizon 2035, c'est ça, je crois. Et enfin voilà, qu'est-ce que tu peux dire.
Voilà, donc là, c'est assez fou ce qui se passe en ce moment, parce que, en fait, en Chine, l'électrification du parc va très très vite. Aujourd'hui, c'est une voiture sur quatre. En 2022, une voiture sur quatre vendue en Chine était électrique. Et c'est un ratio qui a doublé par rapport à l'année précédente. Donc, ça va très, très vite. Donc, on va peut-être même cette année, en 2023, peut-être être un ratio de 30 ou 33%. Peut-être même une voiture sur trois dès 2023 sera électrique vendue en Chine. Et donc, dans ces conditions, ce qui se passe, c'est que sur l'électrique, les Chinois ont pris une avance quand même. Parce qu'ils sont pratiquement aussi bons que les Occidentaux et ils sont moins chers. Et c'est ça le problème. Et donc, en Chine, les acteurs occidentaux sont en train de se faire carrément malmener. Aujourd'hui, là où ce qui reste, c'est vraiment la partie premium, les Allemands. Mercedes, Porsche, BMW. Voilà, c'est eux qui survivent, mais ils sont encore très combustion sur le haut de gamme. Mais l'électrification va gagner toutes les gammes. Aujourd'hui, en Chine, l'électrification est vraiment pratiquement complète sur l'entrée de gamme et en train de gagner, en train de remonter vers le premium. Donc, le seul européen qui arrive à rivaliser, enfin, le seul occidental qui arrive à rivaliser, c'est Tesla. Okay. Tous les autres sont vraiment dans une situation compliquée. Même s'ils ont tous amorcé un virage vers l'électrique très rapide ces dernières années, ça risque de ne pas être suffisant. Et donc, récemment, je lisais une étude qui expliquait que l'entrée de gamme électrique en Chine, c'est un segment coupe-gorge, tellement c'est devenu ultra compétitif. Plus personne ne peut rentrer dans l'entrée de gamme. Et donc, ces acteurs de l'entrée de gamme, aujourd'hui, comme c'est saturé, sur l'électrique, ils vont maintenant en dehors de Chine. Et donc, ils viennent conquérir l'Europe. Et donc, je peux vous dire que dans les prochaines années, vous allez hésiter de plus en plus à acheter soit une voiture européenne électrique ou une voiture chinoise électrique. Et vous allez voir que le décalage, le décalage de prix peut être significatif.
Et si on se met dans la peau de l'investisseur, on a intérêt d'investir.
Donc l'investisseur. Donc quand on réfléchit comme ça, on se dit, moi j'ai envie d'être exposé à la montée
Chine.
Quand on réfléchit vraiment investisseur, qu'on veut gagner de l'argent en bourse, j'ai envie de profiter de la montée en puissance des Chinois dans le secteur automobile. Donc, je n'achète pas les Stellantis, Renault, etc. Dans cette logique-là. On est sur le moyen terme. Par contre, vous avez les équipementiers. Valeo, Faurecia, Plasticomium. Eux fournissent autant. Eux sont agnostiques en termes de occidental ou chinois.
D'où que ça vienne, ils ont.
Donc, eux, ils sont prêts aussi à fournir ces Chinois en technologie. Et donc, c'est pour ça que nous, en tout cas, dans les fonds, on investit de moins en moins sur on appelle ça les OIM, donc les grandes marques européennes et occidentales, et on va plutôt sur les sous-traitants, les équipementiers, et aussi sur Michelin, parce qu'une voiture électrique pèse beaucoup plus lourd qu'une voiture à combustion.
Alors j'ai entendu ça, c'est drôle, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, il paraît que les voitures électriques utilisent beaucoup de pneus Michelin, qu'il paraît qu'il est de meilleure qualité et que le pneu serait plus important. Avoir un pneu de très bonne qualité est plus important quand on a une voiture électrique que quand on a une voiture thermique. Alors, je ne savais pas ça. Tu vois.
Pour plusieurs raisons. Mais deux raisons principales, c'est qu'une voiture électrique est plus lourde à cause de la batterie. Et deuxièmement, le couple, en fait. Pour ceux qui ont des voitures électriques, ils le savent très bien, vous appuyez sur l'accélérateur, la voiture accélère beaucoup plus vite. Et donc, à chaque fois, le pneu s'use plus vite. Ouais. Donc, on dit, selon les études, entre 10 et 20%, l'usure est entre 10 et 20% plus accentuée sur une voiture électrique que sur une voiture à combustion. Et donc ça, pour Michelin...
Alors
Michelin,
donc en exemple de valeur, Michelin, ça pourrait être une valeur intéressante.
Donc nous, Michelin, c'est une valeur, c'est la première, enfin c'est une des premières...
Là, tu serais à l'achat sur Michelin maintenant, par exemple.
Bien sûr. En plus, ça se paye pas cher.
Ouais.
Et en plus, c'est... Il y a tout ce phénomène de l'électrique. Et en plus, c'est des gens qui ont du pricing power, c'est-à-dire qu'ils peuvent remonter leur prix. Et là, en 2022, on l'a vu, c'était incroyable. Les volumes étaient plutôt en baisse, alors que l'effet prix a permis de faire de très bons chiffres. Donc, voilà, ouais.
Et
donc,
toujours ça, en clair. Restant dans cette stratégie des équipementiers, c'est-à-dire que là, on ne jouerait pas forcément sur les constructeurs de base, exactement, sur les équipementiers. Quelle autre idée de valeur on pourrait avoir
pour les trois français, c'est Valeo, Faurecia, Plastic Omnium, donc je vous laisserai faire votre choix. Bon, après, Valeo, c'est le plus gros, c'est celui qui est... qui a beaucoup de potentiel, voilà. Donc, mais les deux autres aussi, hein, donc après, c'est à vous de faire votre choix. Hein. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le fonds Tocqueville France ISR pour faire votre choix dans le top 10, hein, si ça vous intéresse. Voilà.
Non, mais tu fais bien d'en parler, voilà, comme ça au moins, ça va faire de la visite sur votre site. Dernière chose, il y en a encore plein, mais des choses sur lesquelles, qui se passent en Europe, avec le contexte géopolitique qu'on a, avec l'histoire entre la Russie, l'Ukraine, etc., il y a une volonté globale de réarmement. Suite notamment aux propos d'Emmanuel Macron récemment, quelle implication potentiellement ça aura pour ce secteur-là en Europe ? Est-ce qu'il y a une carte à jouer d'un côté investisseur là-dedans ?
Alors, récemment, il y avait le Capital Market Day, en septembre, de Airbus. Airbus ont une division défense et space. Hein, donc, ils ont essayé de se projeter à l'horizon 2026 sur les budgets pour cette division-là. Et c'est plus 50% qu'ils anticipent entre 2021 et 2026. Et là, récemment, la semaine dernière...
Plus 50%
En Europe. La semaine dernière, on a vu donc de 2021 à 2026, sur 5 ans. Emmanuel Macron a annoncé quand même un nouveau plan d'investissement dans le militaire. Et c'est une hausse du budget de 7 à 8% par an, jusqu'en 2030, par an. Donc c'est très très lourd. Les Allemands ont aussi annoncé en février 2022 vouloir investir 100 milliards dans leur fonds spécial pour rénover et réarmer la Bundeswehr, qui est l'armée allemande. Donc tous les pays sont partis. Là. C'est parti. Et là, en ce moment, il y a un débat sur le char Léopold 2, que tu as peut-être entendu parler, qui est fabriqué par Rheinmetall, un Allemand. Okay, donc, je raconte juste ça parce que pour te rendre compte ce que ça veut dire un monde qui va devenir où il va y avoir de plus en plus de guerres ou de conflits potentiels. Un char Léopold 2 sur un champ de bataille génère, maintenu et doit être alimenté en munitions. Ça rapporte à Rheinmetall 1 million par mois, un char. Et donc là, si on venait à livrer par exemple 100 chars, ça ferait 100 millions des bits, donc de rétro opérationnel en plus, pour Rheinmetall. Ça, c'est un article du FT qui est paru hier et qui explique tout ça. Et je trouvais ça, donc c'est ça l'enjeu. C'est que, effectivement, quand les armées ne se battent pas, les fabricants d'armes et tout ça font beaucoup moins de chiffres que
donc si là, tu
les
chars tu disais 1 million par char tous les mois mais ça c'est en quand il est en guerre le char
exactement voilà. Donc là si par
en
exemple
en période de conflit
voilà exactement okay. S'il y a 100 chars Léopold 2 qui sont envoyés en Ukraine, ils vont générer pour Rheinmetall 1 million de retour opérationnel par mois simplement pour réalimenter en munitions, réparer les chars qui sont cassés, etc. Et voilà. Donc ça c'est. Donc je veux dire un pays qui. Bon, bien évidemment, je ne souhaite pas. Hein,
oui, on précise qu'évidemment que c'est pas que c'est pas souhaitable qu'on soutient pas spécialement cette thématique, etc. Mais que là, on est là pour vous donner des idées d'investissement et que dans ces idées d'investissement là-bas, on regarde l'actualité, on regarde ce qui se passe, on regarde les thèmes qui peuvent être porteurs malgré le fait que ce soit pas souhaitable. Et il se trouve que ce secteur de l'armement peut être porteur avec ce qui se passe en ce moment et notamment avec Rheinmetall du coup qui
Rheinmetall. Rheinmetall. Okay. Voilà, donc c'est ça que ça veut dire. Donc maintenant, bon, y a pas mal de valeurs quand même qui sont exposées à cette tendance dans la côte européenne. Donc, en France, on a Airbus, mais ça représente 15-20% du business, donc c'est pas non plus.
Donc Airbus, quand même, première valeur qui pourrait profiter entre guillemets.
Après, je veux dire, l'histoire d'Airbus, c'est surtout l'aviation civile. Hein, donc, mais bon, faut pas non plus. Et
puis, mais ça peut, il y a une partie okay, qui peut être exposée.
Ensuite, bien sûr, il y a Thales aussi, qui est un acteur important. Ensuite, il y a Safran aussi, qui fait des moteurs. Ensuite, il y a bien sûr Dassault Aviation qui fait des avions de chasse, forcément. Après, il y a aussi des Britanniques comme Rolls-Royce, par exemple. Il y a aussi des Allemands, donc Rheinmetall, je l'ai expliqué. Il y a aussi MTU Aero. Et sinon, nous, une valeur qu'on aime bien, qui est dans notre fonds Tocqueville PME, c'est Exail Technology, qui est l'ancien groupe Gorgé, en fait. Et donc, nous, c'est une valeur qu'on aime bien parce que qu'est-ce qu'ils font,
ouais.
Alors, c'est connexe au monde militaire. Mm-hmm. En fait, ce sont des drones sous-marins qui peuvent faire du déminage, qui peuvent être pilotés à distance et qui peuvent aussi surveiller des câbles, par exemple. Donc, c'est vrai que ces derniers mois, on a eu plusieurs alertes ou des menaces comme quoi les Russes allaient nous couper le câble Internet sous l'eau. Ou bien aussi une conduite de gaz
qui a pété dans la Baltique. Oui, il y a eu ça aussi.
Et donc, de plus en plus, on va surveiller toutes ces installations sous-marines. Et donc, chaque pays est maintenant réfléchi à passer des appels d'offres. Alors, c'est vrai qu'à l'échelle d'un pays, c'est pas grand-chose. Mais pour Exail Technology, je peux vous dire, une grosse commande. Donc là, la prochaine grosse commande, c'est qui pourrait avoir lieu. Mais ça, personne ne sait. Mais en tout cas, on le devine. C'est l'Australie qui pourrait passer une commande, en tout cas, sur ce segment-là. Et forcément, si c'est sur le segment des drones sous-marins, Exail de technologie sera positionné. Donc, voilà, donc il y en aura d'autres appels d'ordre. C'est pour ça qu'on pense que Exail technologie, c'est une valeur pour jouer ça dans le segment des small cap français.
Ouais, puis c'est intéressant parce que en plus c'est jouer le ce qui se passe avec les conflits, mais sous l'angle de la surveillance de ces câbles sous-marins, de ces
voilà, parce que ça, effectivement, j'ai oublié de le dire, c'est que il y a beaucoup d'investisseurs dorénavant qui ne peuvent pas investir sur ces valeurs militaires pour des questions extra-financières. Donc nous, c'est notre cas. Par exemple, Rheinmetall, on ne peut pas investir dessus, quoi. Par exemple, c'est un exemple.
Alors que sur les drones sous-marins, ça pose moins de problèmes.
Excellent, c'est moins compliqué.
Bon, très intéressant. Franchement, voilà. Encore une fois, plein d'idées de valeurs. Et tout de suite, on répond à vos questions, comme promis. Hein, vous nous les envoyez à bfmbourse@bfmbusiness.fr. On a notamment Evelyne qui nous a écrit. Evelyne, c'est simple. Elle se demande si l'action Pierre et Vacances peut atteindre les 2 euros. Je crois qu'elle cote à peu près à 1,50 euros, on se parle environ.
Alors, Amaury, on est déjà à 17 minutes. Hein,
17 minutes, bon, 17 minutes. Donc là, on répond à vos questions. On répond à 3 questions ce soir. Pardon. Posez-nous vos questions, on répondra aux autres plus tard. Mais on a 3 questions et on commence par Pierre et Vacances.
Donc, Pierre et Vacances. Alors, Pierre et Vacances, c'est un groupe qui est en transformation, qui vient de se restructurer, qui avait beaucoup de dettes et qui maintenant n'a plus de dettes. Par la magie de la finance, en fait, ils ont transformé toute la dette en actions. Hein, donc ceux qui avaient la dette sont devenus des actionnaires.
D'accord.
Ces gens-là vont forcément, au moment, vendre leurs titres parce que ce sont des gens qui ont investi dans de la dette et pas dans des actions.
Okay.
Donc, ça, c'est le problème du dossier. Maintenant, si on regarde sous le mauvais angle, si on regarde sous le bon angle, il n'y a plus de dette. Gérard Brémond, qui était le fondateur, qui a 85 ans, est parti aussi. Mm-hmm. Alors qu'il avait souvent, il prenait des directeurs généraux qui viraient au bout de 2-3 ans. Il nous a fait plusieurs fois le coup. Au bout d'un moment, plus personne. Le directeur général venait annoncer le plan et puis 2 ans plus tard, il partait.
Ouais.
Donc au bout du troisième, ça a totalement perdu crédibilité. Donc Gérard Brémond est parti et avec un nouveau management et qui maintenant, la stratégie, c'est de premiumiser toute l'offre. Hein, donc en investissant beaucoup d'argent. Donc, moi, ce que je sais, c'est qu'on a déjà vécu ce type d'histoire avec Club Med il y a quelques années. Et Club Med a fait la même chose, en fait. Était vieillissant, poussiéreux, monté en puissance, prémomisation. La clientèle devient très CSP+.
Plus haut de gamme,
et puis finalement, ça s'est fini en OPA. Un Chinois a lancé une OPA sur Club Med. Donc maintenant, est-ce que c'est possible sur Pierre et Vacances? J'en sais rien. En tout cas, ça...
En tout cas,
c'est la même stratégie qui est appliquée.
Ouais, d'accord.
Et ce que je vois aussi sur les forums, c'est que ceux qui vont au Center Park, par exemple, trouvent que pour l'instant, c'est un peu cher pour ce que c'est. Pour l'instant.
Hein. Alors attends, le Center Park.
Center Park, ça appartient à Pierre et Vacances.
D'accord, ok. Ouais. Okay, pour être, okay.
Voilà, et donc ils ont encore du travail. On n'est pas sorti de l'auberge encore, c'est le cas de le dire, mais il y a un potentiel et c'est possible. Maintenant, est-ce que ça va là, 2 euros, 3 euros, ça c'est difficile à dire. Mais en tout cas, je veux dire, ce qui s'est passé en 2022 et ce qui se passe début 2023 va dans le bon sens, sachant que le premier trimestre, ils ont sorti un chiffre d'affaires en hausse de 20%. Donc je ne prends pas la promotion immobilière, je prends juste vraiment la partie tourisme, plus 20%. Avec 12% d'effet prix. Donc, je veux dire, pour l'instant, on est bien parti. Le deuxième trimestre, le management a dit que ça allait à peu près être du même ordre. Et sur l'année, ils attendent plus 7,5% de croissance du chiffre d'affaires. Donc, si on fait plus 20 sur le premier semestre, du coup, le second, il paraît assez conservateur, quoi. Donc, tout ça est de bon augure. Et donc, voilà, maintenant, je mets en garde, si vous rentrez sur le dossier, je je pense qu'il ne faut pas se projeter à 3 mois, parce que ce qui va être dur à maîtriser, c'est tous ces investisseurs de dette qui se retrouvent des actions qui vont devoir sortir, hein, tôt ou tard. Et donc, ça va alimenter quand même, on appelle ça un flowback ou un retour de papier régulier.
Ouais, dès qu'il y a une petite montée, ça va rebaisser.
Par contre, quand tous ces gens sont sortis, là, effectivement, ça sera peut-être beaucoup plus clair.
Et donc, pour si on veut, si on est intéressé pour investir sur cette valeur, on a plutôt intérêt à rentrer maintenant ou à attendre un peu, du coup. Ouais.
Alors, bon, la gestion de bon père de famille, quand on ne sait pas faire le timing, ben on rentre un petit peu de temps en temps. Voilà. Hein, voilà, donc ça, c'est un premier moment. Alors, si on n'est pas confortable, il y a aussi une autre technique, c'est on attend que ça s'effondre pour une raison X ou Y, hein, mais en prenant le risque que ça ne s'effondre jamais aussi.
Oui, ça.
Donc, on dit acheter ce repli. Voilà. Donc, à chaque fois que le titre est un peu faible, on ramasse une louche, mais on prend le risque de finalement ne jamais pouvoir l'attraper. Hein. Donc ça arrive aussi en bourse. Parfois, ça ne revient jamais. Mm-hmm. Maintenant, avec cette histoire d'actionnaires qui doivent sortir, je pense qu'on aura un titre un peu volatile. Okay. Donc, je pense qu'il y aura des points d'entrée peut-être plus évidents qu'aujourd'hui, mais voilà.
Donc, si le dossier Pierre Vacances vous intéresse, il y a, d'après Pierre, il y a des fondamentaux solides. On voit la lumière au bout du tunnel, mais ça prendra du temps, et attention à la volatilité court moyen terme, parce que avec ces histoires de gens qui sont devenus actionnaires un peu malgré eux et qui pourraient ressortir du titre. Voilà. Deuxième question de Bowman. Voilà, très simple aussi. Je suis depuis quelques années action Carmat, et il nous demande simplement qu'est-ce que tu penses de Carmat ?
Alors Carmat, c'est les cœurs artificiels, donc c'est fantastique. C'était le père Lagardère qui avait lancé ça à l'époque. C'est pour ça qu'Airbus est encore au capital.
Ouais.
Et ça fait des années que ça n'avance pas. Ils rencontrent beaucoup de problèmes. Mm-hmm. Voilà. Maintenant, 2023, c'est l'année du départ, enfin. Donc cette année, ils devraient produire 100 cœurs. 100 cœurs, et ils visent 10-13 millions de chiffre d'affaires. Voilà. Donc on est au tout début. Hein. Mais c'est des gens qui consomment énormément de cash pour en arriver là.
Oui.
Hein. Donc, un EBIT négatif de 40 millions, voire plus. Quoi. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont enfin au moment où ils commencent à faire du chiffre d'affaires, à délivrer. Voilà. Donc ça, c'est très, très bien. Par contre, ils vont continuer à brûler du cash. Et donc, il va falloir faire une augmentation de capital. Parce que je ne vois pas comment ils peuvent faire autrement.
Enfin,
de toute façon, c'est évident. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes ouvertement. Donc, il y aura des augmentations de capital encore à venir. Et donc, ce sera autant d'occasions d'y aller. Maintenant, c'est un dossier de cœur. Hein, c'est le cas de le dire. C'est un dossier, je pense, émotionnel. Je pense que quand quelqu'un qui a des problèmes cardiaques, Carmat, c'est la valeur qui va sauver des vies. C'est ça aussi qui est beau. Donc, quand vous y allez maintenant, c'est aussi, je pense, de l'émotion.
Ouais,
voilà. Okay. Et je pense que on est dans ce type de valeur qui sauve des vies. Donc ça, je trouve ça fantastique. Maintenant, boursièrement parlant, c'est encore difficile de dire où est-ce que ça va aller, parce qu'il y a encore deux augmentations de capital qui vont arriver. Le financement de l'histoire n'est pas ficelé encore. Et donc, en général, une augmentation de capital, c'est mal reçu par le marché. Quand on annonce une augmentation de capital, le titre, il a plutôt tendance à sous-performer. Bon, ben, c'est franchement.
Donc là, il y a moyen qu'ils annoncent ça. Et s'ils annoncent ça, il y a moyen que ça perde encore. Donc, tu rentreras pas forcément maintenant.
Bon, nous, dans le fonds Tocqueville PME que je gère, on investit rarement dans des valeurs qui consomment de la trésorerie, qui sont obligées de se refinancer régulièrement. Donc, on le fait rarement. On a un fonds dédié. On est aussi chez nous des spécialistes dans la santé et qui regardent Carmat de près. Donc, voilà, donc c'est pas, boursièrement parlant, c'est pas évident de dire qu'il faut y aller. Nous, dans Tocqueville PME, on en fait pas et on n'en a pas.
Pas évident boursièrement parlant. Tu parles d'une manière générale, ou alors du timing là maintenant tout de suite, parce qu'il y aurait peut-être cette.
En général, une valeur qui consomme du cash, c'est très dur à valoriser. Donc on ne sait pas vraiment combien ça vaut. Okay. Donc, et en plus, comme il va y avoir des événements négatifs, comme les augmentations de capital qui vont arriver prochainement. C'est très difficile de dire est-ce que ça vaut le coup ou pas. Voilà. Okay. Par contre, si vous aimez des dossiers qui ont du sens, qui sauvent des vies, là, il faut peut-être y aller.
Pour résumer, si vous voulez donner du sens à votre épargne, vous pouvez aller sur. Non, mais c'est vrai, vous pouvez aller sur des dossiers comme Carmat. Maintenant, prudence, parce que on a peu de visibilité, boursièrement parlant.
Ça peut être un grand succès, mais ça peut aussi être un gros flop. Voilà. Donc, c'est pas évident. Voilà, c'est compliqué. Je pense que dans la côte française, il y a d'autres dossiers qui sont plus simples. Quoi. Voilà.
Okay.
Pour être très clair.
Ok, bon bah très bien. Et dernière question, Michel, qui a du Getlink en portefeuille et il se dit, est-ce qu'il faut que j'en achète? Est-ce qu'il faut que je conserve ou est-ce qu'il faut que je vende? Donc voilà, déjà okay, Getlink, on peut, en deux secondes, qu'est-ce que ça fait?
Alors Getlink, c'est le tunnel sous la Manche. Ouais. Alors la grande force de Getlink, c'est une concession qui court jusqu'en 2086. Je peux vous dire, c'est l'une des plus grandes concessions d'Europe, en tout cas cotée. Voilà, et c'est aussi une barrière à l'entrée qu'on a, on dit, hein, c'est la plus belle parce qu'il n'y a qu'un seul tunnel, on ne peut pas en faire un autre.
On ne fera jamais
un autre tunnel.
Il n'y aura pas tellement de concurrence.
Bon, le seul concurrent, c'est l'avion ou les ferries. Mais ce n'est pas pareil parce que, je veux dire, on arrive dans un Saint-Pancras. Donc, je veux dire, c'est quand même, ça change tout. Donc, c'est un concurrencement, il n'y a pas de concurrent. Donc, c'est ça la beauté du truc. Maintenant, moi, je pense que c'est une valeur de fonds de portefeuille. Pour trois raisons. Voilà. Il y a trois sujets à surveiller sur Getlink. Voilà. Il y a le premier, c'est forcément l'activité historique, le trafic. Et là, c'est vrai qu'avec le Brexit, etc., le trafic, il reste encore une vingtaine de pourcents en dessous des niveaux historiques. Et donc, c'est difficile. Dans l'état actuel, on ne reviendra pas sur les niveaux pré-Brexit, pré-Covid. La seule chose qui pourrait changer la donne, c'est que les Britanniques disent tout d'un coup, ok, on veut se réconcilier avec le continent et on va faire un traité de libre-échange, comme les Suisses.
Ouais, okay.
Mais il y a encore une rumeur la semaine dernière, comme quoi Rishi Sunak, le Premier ministre, voulait le faire. Tout de suite, l'opposition, le camp des Brexiteurs, a monté au créneau et a dit non, on ne veut pas renier le traité, le Brexit. Donc aujourd'hui, il faut que les Britanniques trouvent un consensus sur leur relation avec le continent, avec beaucoup plus de libre-échange. Ça, c'est le catalyseur principal pour l'activité historique. Okay. Mais d'ici là, ça reste poussif. Voilà. Deuxièmement, Enlink, donc ils ont tiré un câble, un câble d'interconnexion électrique dans le tunnel qui s'appelle Enlink, qui permet d'acheter l'électricité d'un côté et le vendre de l'autre, en fonction de où l'électricité est le plus cher ou le moins cher. Il faut du trading d'électricité. Avec la volatilité des marchés électriques qu'on a vu en 2022, ce câble va générer des profits incroyables en 2022. Hein, donc, et ça compense largement la faiblesse de l'activité historique. Non, largement. Ouais. Okay,
et ça, pour le coup, ça ne dépend pas forcément des histoires de politique, en tout cas pas directement. Voilà,
donc les interconnexions, c'est vraiment quelque chose qui est recherché par tous les pays européens et c'est synonyme de sécurité énergétique.
Hein. Okay.
Donc plus on est interconnecté avec nos voisins, plus on est de sécurité pour l'approvisionnement d'électricité. Donc ça, c'est une tendance qui va continuer. Donc les interconnexions, il va encore en avoir. Voilà. Okay. Donc Electric, c'en est une.
Ok. Et dernier point, tu avais un troisième.
Et dernier point, c'est le capital. Donc au capital, il y a une petite bataille qui est en train de se passer. C'est FH qui est passé de 5 à 19% du capital. Donc FH, ça c'était en octobre dernier. Donc FH a dit pendant longtemps, nous on a 5%, on reste comme ça. Mais là, hop, ils ont passé à 19% en rachetant la participation d'un fonds britannique qui s'appelle TCI. Et il y a un deuxième actionnaire qui est Atlantia, qui a 15% du capital. Atlantia a été racheté récemment et se pose des questions sur qu'est-ce qu'il faut faire avec mes participations qui ne servent à rien, comme celle dans Getlink. Voilà. Donc je vous laisse imaginer ce qui pourrait se passer au capital si Atlantia venait à dire je sors, ou FH. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des acteurs, des concessionnaires, parce que FH et Atlantia ont déjà des concessions dans d'autres trucs, qui sont au capital de Getlink et qui FH et Atlantia ont des concessions qui arriveront à échéance au cours des prochaines années. Ouais. Et l'avantage de Getlink, c'est que c'est 2086 l'échéance de la concession. Bon, et donc, ça peut faire des envieux. Le problème, c'est que c'est un peu gros pour manger d'un coup par FH. Getlink, c'est un peu gros. Par contre, on peut imaginer plein de choses. On peut même imaginer d'autres acteurs qui viendraient. Enfin, en tout cas, le capital est ouvert sur une concession qui est l'une des plus longues européennes cotées et qui a du potentiel avec Getlink. Et avec aussi un réchauffement des relations du continent avec le Royaume-Uni.
Ok, voilà. Donc ça nous fait quand même pas mal de raisons d'espérer que ça se passe bien,
Pour résumer, secteur, valeur plutôt défensive,
ouais,
de fonds de portefeuille, avec des catalyseurs qui sont puissants, mais avec une probabilité faible.
D'accord.
Donc
là, si on en a pour essayer de répondre à Michel, alors c'est jamais simple de dire faites ça, nous encore une fois... Diversifier, on ne fait pas de conseil en investissement en direct, exactement, mais on essaie de répondre au mieux à vos questions. Donc là, si on en a en portefeuille, qu'est-ce qu'on fait si
on... Bah nous, on en a et on en garde. Hein.
Voilà, donc bah, plutôt garder. Alors, Michel, on lui conseille plutôt
vous
de garder.
Moi, je vous dis les points d'attention. Après, il faut pas écouter les investisseurs qui vous disent faites ci, achetez ci, achetez ça. Ce qu'il faut en bourse, il faut faire des erreurs. pour apprendre de ses erreurs. Ensuite, il y a des gens qui investissent. On investit avec sa personnalité, avec sa compréhension. Mmh. Moi, si je vous dis qu'il faut acheter ça, ça se trouve, c'est parce que c'est mon analyse. Bah, c'est sûr. Pas non, forcément non, mais la c'est vôtre. Clair. Donc, c'est la bourse, il faut se forger sa bosse. Okay. Il faut se faire le cuir soi-même.
Voilà, en tout cas, tu as donné trois scénarios potentiels qui pourraient, et après, il faut surveiller tout ça. Quoi.
Ouais, c'est trois sujets qu'il faut surveiller sur GetClick, okay. Voilà, pour se faire son avis.
Ok, mais en tout cas, t'en as, toi, chez toi, tu en as en fonds de portefeuille qui, et pour l'instant, tu le gardes. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire à ce stade. Ok, super. Et bien, très clair. Merci beaucoup.
Merci
Pierre,
à Marie, merci
Chang.
Beaucoup.
Tu es gérant, je le rappelle, chez Tocqueville Finance. Non, et on te retrouve, de toute façon, tu reviens mercredi prochain dans BFM Bourse, si je dis pas de bêtises. Hein, c'est ça. Voilà. Normalement, ton passage est prévu mercredi prochain. Et.